Adrien Landivier, c'est aussi cette émission, Glitch sur le Move, OVNI improbable dans le PAF, hein, et surtout récompensé d'une médaille d'argent en 2014 aux International Radio Program Awards, qui se tient traditionnellement à New York dans la catégorie Best Regularly, Schedules Program. L'information est passée dans les médias spécialisés dans la radio, hein, et dans les médias en général, mais on ne l'a pas plus entendu. Aucune mention n'en a été faite au Move, hein, à l'antenne. Est-ce que tu as été content de la recevoir, est-ce que ça a mis une lumière au sein de la Maison Ronde sur ton émission? Comment ça s'est passé?
Ça m'a sûrement sauvé une saison. le New York Festival, c'est quand même un petit peu, c'est assez la classe, hein, c'est le festival de, c'est vraiment le festival de Cannes, mais de la radio. Ils font ça aussi pour la télé, il y a un truc pour la publicité aussi, donc c'est vraiment le plus gros festival, quoi, après le prix Italia, qui est vraiment, lui pour le coup, qui récompense plutôt d'ailleurs des documentaires de mémoire, le prix Italia. Mais le New York Festival, c'est vraiment un gros festival de référence, donc c'était vraiment super chouette. Et c'était au bout de 6 mois d'émission, tu vois, c'était la première année, donc c'était pour moi c'était je doute beaucoup,
que t'avais plus aucun doute, hein.
Malgré tout, ça m'a pas quitté, mais ça m'a quand même confirmé, je pense, sur un élan, sur un truc, que j'étais dans la bonne voie et que c'était chouette, et j'étais quasi certain que voilà, ça allait me légitimer à l'antenne au moins pendant, je sais pas, 10-15 ans. on n'est pas beaucoup à avoir des récompenses internationales à Radio France non plus. Chaque année, il y en a un peu, ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, moi, c'était ma première émission. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Ma première émission à l'année, quoi.
Mais fait mouche, quoi.
Pas un truc d'été, voilà. Et puis ça fait mouche. Et c'est sur des musiques. Et c'est radical. Et c'est un truc que j'ai pensé tout seul. Et c'est un truc qui a rien à voir avec une émission de radio classique, etc. Et du coup, je me suis retrouvé, effectivement, je suis médaille d'argent, mais quand même, je précise, il n'y a pas eu de médaille d'or, donc c'est pour ça que je dis que j'ai été élu la meilleure émission musicale du monde.
D'accord, ok. La médaille d'argent, je l'ai trouvée par hasard, parce que moi, j'étais persuadé que tu avais gagné la catégorie.
Donc, du coup, parce qu'il n'y a pas eu de premier, en fait. Donc, d'accord. Je suis le deuxième, mais comme il n'y a pas de premier, je suis le premier.
T'es le premier. Alors, l'émission Glitch sur le Move est arrivée en même temps, donc une énième restructuration du Move, hein, je précise ce qu'est le Move, hein, c'est une radio qui donc a été créée en 1997 à Toulouse et qui a fait grincer des dents un certain nombre de cadres à Radio France, et donc le Move a fait parler de lui dans les années 2000, notamment parce qu'il y avait eu une libre antenne en concurrence frontale avec l'autre grosse libre antenne de l'époque, qui était Difool sur Skyrock. C'était donc les filles du Move. Voilà. Et donc tu arrives avec ton émission Glitch sur le Move, avec donc cette restructuration de l'antenne où on a commencé à voir donc des producteurs qui faisaient des émissions qui France Interisaient un peu l'antenne, hein. Je pense notamment à Frédéric Bonneau, qui proposait une émission. On avait aussi une matinale qui était plutôt bien faite et plutôt intelligente par rapport à d'autres matinales, voilà. Qui étaient celle d'Amel Guiton. Donc toi, t'arrives dans cette mouvance là, une chaîne musicale, enfin qui propose de la musique, quelque chose qu'on voit pas ailleurs, mais qui laisse pas les auditeurs aussi bêtes que ça. Donc je précise qu'à l'époque, le directeur, c'était Patrick Blanc-Francard, donc c'est lui du coup qui t'a donné cette chance.
Absolument.
Cette chance là, alors qu'on a dit que un vieux qui dirigeait le Move, c'était antinomique. Alors c'est lui qui t'a donné cette chance, et comment ça s'est passé exactement, comment t'as fait pour arriver sur le Move?
Et eh ben en fait j'avais proposé ce projet d'émission musicale qui était un peu, hein, que je voulais un peu, je savais pas trop en fait comment le tourner en termes de forme, je crois au tout début, quand j'avais proposé à Culture, le seul truc que je savais, c'est que je voulais passer de la musique, des morceaux en entier, pas forcément faire une interview, Donc ça serait plutôt de la présentation, de l'animation, mais même j'étais pas très, voilà, encore une fois je doute beaucoup, donc j'étais pas très sûr de moi quant à pouvoir tenir le micro comme on dit, tu vois, et puis surtout à côté il y avait du Laura Leishman, des trucs complètement, tu vois, quelque part déjantés en termes d'animation, des trucs que moi je sais pas jouer, quoi, c'est pas mon personnage, et puis je voyais pas trop en fait le rapport, le... Bah, par rapport aux musiques que je voulais faire, je te disais, je voulais mettre plutôt le son en avant, tout ça, tout ça, tout ça. Donc bref, je savais pas trop un peu comment présenter la chose. Du coup, culture, bah, il n'y avait pas assez de paroles, ça les intéressait pas. Musique, c'était, c'est quoi les trucs, les musiques électroniques, là, bon voilà, on fait du GRM, musique
électronique. C'était encore électro-acoustique, hein, ils avaient
Ils sont toujours, hein.
Ils sont toujours, oui.
Ouais, voilà, bon, c'est l'enfer, quoi. Mais bon, non, mais ça fait quoi, je sais pas, au bout d'un moment, faut renouveler les gens, quoi. Bah, c'est bien, hein, moi, je veux pas qu'on vire les gens, mais bon, de moi, même, tu vois, je serais pas glitch dans 40 ans, tu vois ce que je veux dire, sinon
oui,
on fout des baffes, quoi.
Sens.
Ouais, ou alors ça aura du sens peut-être pour moi, mais aucun intérêt pour les autres, quoi. Voilà. Non, mais je sais pas, après, c'est vrai. Enfin bon, tout ça pour dire que je me suis tourné, du coup, bah, vu que toutes les grandes chaînes me voulaient pas, au bout d'un moment, le move, vraiment, je répudiais parce que j'aimais pas de base, tu vois, il y avait les filles du move, les trucs, les machins, c'était vraiment pas mon univers. Moi, j'étais.
Tu vois, rock.
Mais non, mais tu vois, moi, j'étais squat, breakcore et tout ça à côté dans ma vie, quoi. J'étais attaché de presse, mais à côté de ça, tu vois, musicalement, j'étais à 3 milliards de kilomètres aux antipodes de ce que pouvait diffuser le MOOF, quoi.
Et puis,
à cette époque, hein.
Et puis le MOOF, c'est quand même, oui, même si à cette époque, oui, mais à cette époque, le MOOF s'est transformé, hein.
C'était plus la radio rock, qui était leur slogan, etc. C'était une radio pour la musique jeune, ouverte. Donc ils ont mis du hip-hop avec les deux frères, là, qui étaient plutôt sympas, d'ailleurs.
Les cautionneurs.
La caution, c'est bien. Akhenaton, il avait son émission. Laurent Garnier avait une émission. Olivier Cachin, grand spécialiste, bon, même si lui, au bout d'un moment, il faudrait peut-être qu'il lâche la place aussi pour un autre.
Bref,
je sais pas de l'anti-vieux non plus, mais enfin voilà. Et il y avait Moustique aussi, tu vois, qui propose des émissions complètement, une programmation complètement délirante, et puis le personnage, c'est quand même quelque chose.
Ouais.
Et donc voilà, moi je suis arrivé là, et puis avec ce truc en disant, voilà, ça personne le diffuse, Nova, le même Nova qui était un peu la référence, genre musique indépendante, tu vois, truc
machin.
Mais je lui ai dit, mais même ça, tu vois, ça existe pas. Le projet,
c'est marrant parce qu'il aimait bien. Une émission comme la tienne aurait eu sa place, toute sa place d'ailleurs, à je pense à deux chaînes en particulier, bah, FIP pour rester à Radio France, mais je pense que c'est trop calme, FIP, définitivement.
Ouais, et puis surtout, il y avait quand même, même s'il n'y avait pas un animateur, c'était un concept d'émission, et à FIP, il n'y a pas d'émission.
C'est un flux musical.
C'est pas forcément.
Et puis la deuxième radio, mais hors Radio France, Nova, quoi. Ça aurait eu toute sa place. Nova, bah ouais. Même si Nova c'est...
Et je les avais contactés à l'époque aussi, hein, mais ils m'avaient même pas reçu ni rien. Bon, je pense que je savais pas forcément m'y prendre aussi. Hein. Mais tu vois, je sais pas. Bon, en tout cas, le fait est que Patrice Blanc-Francard, lui, même s'il était vieux, tout ça, je me suis dit, bon, c'est quand même perdu d'avance. En fait, je crois que ça a un peu fait tilt le côté... musique que personne ne diffuse, un truc un peu pointu électro, il avait pas vraiment, tu vois, Laurent Garnier, c'était plutôt les musiques dansantes. Ouais. Et puis Patrice Blanc-Francard, c'est quand même un mec, tu vois, un animateur radio musical. C'est le rock, c'est un peu le rock en France, c'est un peu Patrice Blanc-Francard aussi, quoi. Quand il était sur Inter, son émission, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai jamais écouté, mais tu vois, je sais que ça existait et je connais l'importance du mec. Donc en fait, il a été ouvert à cette proposition musicale et je crois qu'il a bien aimé un peu mon enthousiasme, un peu, tu vois. Et puis quand même, à côté de ça, j'étais attaché de presse, ok, mais j'avais fait cette culture en 2007, donc j'avais une légitimité radio, j'avais fait des reportages, donc voilà, j'étais de la maison. Et surtout, ça faisait 10 ans que je bossais gratuitement, quels enfoirés, pour Trax Magazine, quoi. Donc je suis arrivé aussi avec un lot d'articles, et puis je pigeais aussi un peu pour les Inrock. Donc j'avais quelques chroniques, quelques trucs. Donc ça plus ça, le fait que je fasse de la radio, la musique, ok, là il proposait pas ça. Lui il voulait en plus quand même diversifier un peu, il trouvait ça trop rock, justement trop blanc, trop machin. Il voulait que ça soit un peu plus. Voilà, et ben je lui arrivais avec une proposition musicale sympa, j'étais de l'interne et pourquoi pas, tu vois. Et du coup en plus il prenait pas vraiment de risques et moi ça me convenait parce qu'il me foutait le vendredi à minuit.
C'est sûr qu'en termes de programmation, d'ailleurs, juste une question
c'est le top.
Comme ça.
Minuit, c'est génial.
En dérivé, t'as eu des chiffres d'audience par rapport à ton émission.
Il y avait les podcasts qui montaient chaque mois, en fait. Il y avait de plus en plus d'auditeurs. Donc, ce que tu disais du coup dans ta présentation au tout début.
Oui.
À un moment, les trucs des questions d'audience. Les questions d'audience au groupe, de toute façon.
On a vu qu'ils sont dans les bas-fonds depuis
voilà,
des années.
Depuis, vu qu'on est sous le radar de Médiamétrie, parce qu'ils étaient à moins de 1% et ouais. que la marge d'erreur c'est 0,3, ouais. nous on était à 0,5, tu vois 0,4. Le truc. Ben voilà. Ouais. Donc en gros, c'est comme s'ils avaient aucun auditeur.
C'est ça. Ouais. Et malgré, mais ça on en reparlera de la nouvelle, leur nouvelle formule qui a, je pense, fait hérisser les poils de énormément de monde, dont moi le premier d'ailleurs. On en reparlera. On en reparlera.
Non, donc voilà, donc comme tu le disais, moi je suis arrivé au MOOV à une époque où justement ils cherchaient à ouvrir un peu élargir un peu les horizons, à la fois musicaux et même en termes de quoi, un peu en termes de tout, et puis de renouveau aussi quoi. Donc je suis arrivé au bon moment, sûrement.
Je pense, oui.
Donc, aujourd'hui, si tu devais le refaire, tu le referais?
En fait moi j'aurais bien parce que du coup la fin de Glitch a été un peu c'est tombé un peu comme un couperet, et puis tu vois tout allait bien, j'avais eu le prix l'année dernière, j'avais de plus en plus d'auditeurs, j'étais de plus en plus à l'aise, ça marchait bien, j'étais quand même quelque part aussi le mec le plus actif aussi sur le web, Facebook et tout ça, donc j'ai ressenti quand même vraiment une injustice quoi, mais bon c'est la vie hein, c'est pas grave, et puis je suis pas mort, il y a des gens qui vivent des injustices beaucoup plus hard que ça, tu vois, supprimer une pauvre émission de radio, surtout que j'ai pu continuer à bosser à Culture après, donc ça aussi voilà, c'est je veux dire j'ai pas crevé la dalle à la fin de Glitch, donc ça change tout aussi quoi.
Alors justement,
mais ça n'empêche que l'envie elle est là quoi.
Alors justement, tu parles.
Oui, je le referai.
Tu parles d'envie pour les auditeurs du coup qui n'auraient jamais écouté cette émission. Outre le fait qu'on a diffusé le sonore, donc le générique juste avant, une petite idée de ce qu'était Glitch sur le MOOV.
C'est un certain sens de l'ordre.
Ah ouais, oui.
Je serais parent d'un enfant de 6-7 ans, j'aurais pas l'idée de l'enfant.
Donc t'introduisais donc chaque émission avec un petit montage.
Ouais, absolument, qui durait entre, je de mémoire, 3 et 5 minutes.
C'est ça.
Qui était fait à base de... Tu veux que j'explique un peu comment c'était fabriqué?
Bien sûr, vas-y, ouais. le temps que le sonore se déroule.
Du coup c'est pour les auditeurs ou c'est
Ah c'est pour les auditeurs.
Ah ouais,
oui,
pour les auditeurs.
Non mais
oui.
Je parlais pour les auditeurs là.
D'accord. en fait c'était à base de samples qui venaient du web très majoritairement des trucs libres de droit quand même, faut pas déconner. Et puis des petits bouts de reportages que je faisais dans la rue ou des interviews, des trucs comme ça. Par exemple, j'avais fait une émission sur le glitch politique où j'avais parce que j'étais tombé sur un article dans Le Monde qui parlait on avait réussi à faire parler des, à faire, à reproduire le son du néolithique quoi. On avait trouvé la technique, comment ils frappaient la pierre, on avait retrouvé des pierres qui chantent comme ils appellent ça quoi. Et du coup j'étais allé faire une interview au musée de l'homme du mec qui avait découvert tout ça et qui expliquait. Et puis du coup j'avais bâti toute mon émission là-dessus. Et du coup quand je faisais une grosse interview comme ça, ça durait un peu plus longtemps. Mais parce que c'était vraiment passionnant, parce que du coup même dans Glitch d'un seul coup où c'était des musiques déviantes, des trucs chelous, t'avais une explication sur le son du néolithique, tu vois, par exemple. Et ça j'aimais bien, c'était un peu, peut-être c'est mon côté France culturien, tu vois.
Qui ressortait.
Ouais. Mais voilà, donc ça venait, c'était un mélange de plein de trucs, et puis même les bouts de samples que je récupérais dans le web, je découpais dans la phrase pour leur faire dire n'importe quoi, ou je remplaçais des mots, ou des trucs comme ça, c'était un peu l'idée.
Et il y avait des choses très très rigolotes.
En fait, l'idée tout simplement, c'est un peu, tu vois, comme les abyssales, tu vois, par exemple, vous devriez avoir dans, à la fin de votre générique, une sorte de plouf immersion, quoi, avec des bulles, tu vois. Alors, qui s'enfoncent sous l'eau et tout ça, quoi. Ça l'idée c'est de plonger les gens direct dans un bain, tu vois. Déjà, il y a le générique, ça dure 30 secondes, ça fait mal. Et puis paf, d'un seul coup, tu rentres pendant 3 minutes dans un truc, mais tu te dis, mais c'est quoi, c'est une émission de radio, il y a personne qui est, il y a pas d'animateur, il y a pas de quoi ça va me parler. Attends, ah ouais, puis il y a tout.
Justement, c'est marrant que tu dises ça. Je vais juste y revenir après, je voudrais juste te faire écouter la voix aux auditeurs.
Un voleur d'âme, un éléphant pixelisé et un serpent rêvé et un peu de bastard pop.
Parce que donc il y a forcément, voilà, il y a du traitement sur ta voix pour qu'on puisse pas la reconnaître. Moi, c'était dans quel but d'ailleurs de traiter cette voix de cette manière-là? Il y a un peu du glitch, un peu de délai.
Conceptuel, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire que autant dans l'image, ben je glitchais l'image pour pas être reconnu, oui. Autant dans le pardon, autant dans le on parlait de quoi là?
De ta voix.
De la voix. Et bah autant dans la voix, c'est pareil. Il fallait qu'elle. En fait, l'idée c'était de créer un écrin dans lequel on pouvait diffuser ces musiques, où les gens, en fait, ils auraient été un peu préparés, mais pas forcément comment ils le croyaient, par une sorte, voilà, des ambiances sonores, d'une petite histoire, un truc chelou, et paf, ils arrivent à ça, quoi. Ça permet, en fait, c'est, et comme il n'y avait pas d'explication, moi je voulais pas être professoral, je voulais pas rentrer dans ce délire là. L'idée c'était de mettre un effet glitch. L'émission s'appelait Glitch, tout devait être glitché, quoi. Et oui, ma voix, elle correspondait plus aux musiques que je diffusais, c'est-à-dire un peu bizarre, un peu chaotique, un peu machin. Et ben c'est comme les musiques que je diffuse, elles sont un peu bizarres, un peu chaotiques, un peu machin, quoi. C'est un tout, en fait, c'est pour ça que moi, la réussite, entre guillemets, que je trouve dans Glitch, c'est parce que j'ai réussi à créer un tout dans tout, en fait. C'est un objet complet, quoi, un objet sonore, machin, surtout, quoi. Et on parlera après des petits modules vidéo que Dick Liotti, que Anaïs Vincent faisait, qui était à l'époque, voilà, ma compagne et tout ça, avec qui je travaillais aussi pour l'ARSP dans le vidéo. Donc tout ça, ça a un sens, en fait, quoi. Il y avait vraiment une cohérence dans tout, quoi, dans le son, donc dans ma voix, forcément aussi. Et l'effet qu'on utilisait, c'était un simple glitch. D'accord. L'effet s'appelle glitch.
Bon, bah voilà. Voilà. Mais c'est drôle du coup que tu parlais du fait de les abyssales. Bon, parce que j'avais tenté de faire sur une émission seulement, parce que ça prend énormément de temps.
Ouais. C'est très long, hein, le montage, tout ça. Ça paraît foutraque et tout ça. Mais
ah oui, non, mais non.
Pour
non,
que
non.
ça paraisse foutraque, c'est du boulot.
Exactement. Parce que justement, l'émission 7 des abyssales, j'avais tenté de faire ceci. Alors les auditeurs vont du coup. Se replonger dans la mémoire de notre émission qui donc ça c'était en 2014. Alors là, pas libre de droit, hein.
C'est pas grave.
Tu ne descends pas chez les petits.
Je me méfie, patron, je me méfie.
Quand nous atteignons l'âge de 60 ans, nous avons passé 20 ans à dormir et 5 ans à rêver. Longtemps relégué au royaume des mythes, le rêve lucide revient aujourd'hui sur le devant de la scène et suscite l'intérêt des sciences. Ne permettrait-il pas d'accéder au centre de l'homme, à sa conscience?
C'est une histoire de rêve.
Non?
Si, c'est un rêve qui raconte un rêve. En rêve.
Depuis qu'il a 6 ans, il a ses épisodes d'inversion à la réalité.
C'est une sensation complètement enivrante. Je suis dans mon propre univers et je peux faire ce qu'il me plaît.
Je peux voler jusqu'à la lune et y manger une glace. Tout est possible.
Mais pourquoi rêvons-nous? Comment les images et les émotions que nous ressentons intensément se forment-elles dans notre tête? Les rêves ne sont-ils qu'une tentative de notre cerveau pour créer du sens à partir de signaux électriques fortuits? Rêvons-nous pour oublier? Le rêve fait-il intervenir notre inconscient ou notre conscience? Ou les deux états en même temps? Sigmund Freud considérait le rêve comme la voie royale qui mène à l'inconscient.
Bonne nuit, faites de beaux rêves.
Je m'étais vraiment amusé à faire ça.
En tête, je traverse des bâtiments et j'ouvre des portes pour créer de nouveaux environnements.
Donc ça, c'était en introduction de l'émission 7 des Abyssales. Où là, carrément, je peux dire que je t'ai plagié. Hein. J'ai carrément pris l'idée de faire des petits modules.
Ouais, alors là, attention, hein, parce que pour le coup, il n'y a absolument aucun plagiat. Moi, je ne revendique pas du tout le de faire des montages audio. Plein de gens l'ont fait.
Mais bon, tu aurais pu le penser, parce que clairement, c'était
oui, je me retrouve vachement, en tout cas, là-dedans, ça c'est clair.
Voilà, donc bon, merci pour le documentaire, merci à Arte pour le documentaire, parce que du coup, j'ai pris quand même pas mal chez eux. Ouais. Puis après, voilà, j'ai pris 2-3. C'est très intéressant comme travail à faire, mais bon, c'est extrêmement chronophage et dans une émission comme la nôtre et dans nos vies surtout, parce que nous, on n'est pas producteurs de radio ni quoi que ce soit. Bah, c'est juste pas possible, quoi.
C'est le truc génial quand même que te permet Radio France, entre parenthèses, c'est que voilà, même si j'étais pas super bien payé, j'étais quand même, je faisais que ça de la semaine. T'imagines le truc de fou, pendant 2 ans.
Ah oui. Enfin, bref. J'imagine.
Non, en tout cas, pour en revenir à l'extrait que tu viens de passer, le rêve, c'est peut-être t'es pas choisi j'imagine c'est choisi à dessein, mais c'est vraiment le truc le plus important aussi qui accompagnait Glitch, et le fait que ça soit tu vois le vendredi à minuit.
À minuit.
Ouais. L'horaire, c'est très important. Oh. Et minuit, tu vois, c'est du jour au lendemain, quoi. C'est tu passes d'un truc à un autre. Et donc ça perd. Pour moi, c'est comme une bascule, tu vois. C'est pour. Quoi. Et d'un seul coup, tu pouvais basculer, voilà, dans un autre temps. Et c'est ce que on disait juste avant quand on préparait l'émission. Moi, j'aurais adoré faire cette émission. J'aurais pas pu la faire parce que j'aurais eu aucun accès web et tout ça à l'ère où l'internet n'existait pas, quoi.
Pour faire rêver un peu plus ces auditeurs.
Bah parce que du coup, le seul moyen de pouvoir écouter Glitch, et tu vois, c'est, et pour moi, faut être quand même un peu dans des conditions, tu vois, t'es pas obligé d'être accompagné d'un pétard, etc. Hein, c'est pas l'idée, mais l'idée, c'est quand même qu'à minuit, si t'es à minuit et que t'es réveillé, c'est que t'es dans un état un peu particulier. C'est soit t'as fait un apéro, soit t'as fait des trucs, soit t'as traîné. Non, mais tu vois, et ouais. T'as ton corps fatigué d'une journée, t'es pas dans le même état d'écoute que quand t'es à 20h ou quand t'es à 18h ou à 10h, quoi. Et à minuit, c'est parfait justement pour basculer dans le rêve. Dans ces émotions là, quoi, dans cette chair du son, dans un truc où tu branches la radio et d'un seul coup, paf, tu vois, il est minuit, quoi, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et moi, ça m'a toujours fait rigoler parce que en fait il y avait des auditeurs, j'avais du coup, comme j'étais pas mal sur Facebook, j'échangeais pas mal avec beaucoup d'auditeurs très différents, et il y en a un qui était très marrant, un lycéen, qui me disait, mais moi, tu vois, ton pote, je l'écoute qu'en podcast et que le matin quand je vais au lycée, quoi, dans le métro, quoi. Et genre il se tape, et moi je l'imaginais, tu vois, écouter Glitch dans le métro, je sais pas, ligne 7, tu vois, entre Crimée et Riquet, et de tomber, je sais pas, sur une émission sur les rêves, et je me disais, mais du coup, la perception qu'il doit avoir, lui, il kiffe, hein, donc tant mieux pour lui, mais ouais, la perception qu'il doit avoir, c'est pas du tout sens, quoi, dans laquelle j'ai conçu l'émission, fait. Et ça me gênait, et c'est pour ça que je trouve que si on était sur un mode de radio où on pouvait pas l'enregistrer, où c'était que du direct, et après ça disparaît, ben là, tu vois, t'arrives à un moment, du coup, de magie pure, et puis du coup, c'est un vrai rendez-vous, quoi. En fait, on a perdu aussi cette notion de rendez-vous avec les podcasts. Ça, c'est un peu chiant.
Ouais, ça, c'est...
Mais c'est toi qui fixes ton propre rendez-vous.
Oui, mais c'est du ça coup, aussi tu... qui, oui, qui c'est un... oui, puis, oui. Mais moi, j'aime bien les contraintes, en fait. Non, mais c'est vrai. Et cette contrainte-là, le fait de pouvoir d'écouter une émission que tard la nuit... quand il fait nuit, quoi, quand il fait nuit noire, quand tout le monde dort a priori, donc en gros tu te sens un peu isolé dans ton appart, dans ta maison et tout ça, tu vois, tout est endormi et toi, paf, t'es branché juste à la radio à un moment où ton esprit, ton cerveau, il est dans un état particulier, quoi, que t'aies bu, fumé ou pas, machin, quoi, tu vois. Ouais, c'est important, la perception, bien, à la radio, je trouve.
En parlant de rêve, justement, il y a quelque chose, enfin, il y a une question, en tout cas une série de questions que je voulais te poser par rapport à une émission en particulier. Parce que je sais que je t'en avais parlé à l'époque et ça m'avait fait complètement halluciner. Je vous fais juste écouter le sonore et on en reparle juste après.
Les nuages, c'est de la vapeur d'eau. C'est ce qui sort du fer à repasser quand on repasse ou du bain quand il est très chaud. C'est l'eau qui se transforme en vapeur. Les nuages, quand tu lèves la tête, ils sont là-haut dans le ciel. On voit des nuages qui s'accrochent sur les montagnes. Et vraiment, ils s'accrochent sur les montagnes, les nuages. Les montagnes aiment beaucoup les nuages. Elles aiment beaucoup se coiffer avec des nuages. Ça leur fait comme des chapeaux. Et
qu'est dit la pluie ?
La pluie, c'est de l'eau qui tombe du ciel. Ça sert à mouiller les toits des maisons pour les nettoyer, à mouiller la terre pour que les plantes poussent, à mouiller les gens pour qu'ils regardent un peu ce qui se passe dans le ciel.
Qu'est-ce que tu penses des nuages ?
Eh bien, c'est embêtant parce que ça prévoit sûrement de la pluie qui viendra.
Ils sont où les nuages ?
Effectivement, c'est Catherine Laborde qu'on entend. Et on est toujours dans Glitch dans Glitch sur le Move. Effectivement, Catherine Laborde, donc du coup qui a quitté, alors apparemment dans des conditions assez particulières, l'antenne de TF1 depuis quelques semaines. Et t'as eu Catherine Laborde. Mais comment t'as réussi à lui faire dire une tempête de Brécor ? Moi, c'est un truc hallucinant. On est quand même sur Catherine Laborde. On n'est pas non plus sur... Enfin, je sais pas, t'aurais dit à Pernaud...
Mais les...
Pour moi,
les personnages les plus sympathiques dans l'histoire, en fait, c'est le petit garçon qui est en fait le... En fait, c'était mon petit neveu à l'époque et le grand-père là, c'était mon beau-père à l'époque aussi, quoi. Donc ça fait partie. C'est vraiment que du l'enregistrement. C'est pas de l'archive, quoi. Mmh. Et Catherine Laborde, bah c'était aussi mes périodes France Culture. Du coup, j'ai, tu vois, tu nous décontactes et tout ça. Mmh. Et il y avait un type à la radio qui a quelques amis très stars comme ça, qui a des histoires particulières, pas d'amour ni rien, mais tu vois, sentimentales et tout ça, et c'est un type absolument adorable et hyper attachant. Et du coup, c'est un très très bon copain de Catherine Laborde. Et moi, je voulais faire une émission, tu vois, sur...
La météo.
Bah, sur la météo, ouais. En tout cas, j'avais vu qu'il y avait plein de titres et tout ça, où il y avait des trucs de pluie, de trucs, mais voilà, météorologiques et tout ça, d'ambiance comme ça. Et je me suis dit, bah, ça peut agréger, ça peut être, tu vois, le bâton qui va agréger, le thème qui va agréger pour l'émission. Et du coup, j'en parlais à ce type comme ça pour rigoler. Et ce type, c'est un super bon copain, Gaël. c'est lui qui m'a dit, j'appelle Catherine, et paf, et puis elle a accepté, et elle a trouvé ça sympa. Du coup, je vais aller enregistrer chez elle, on a pris une photo, puis du coup, encore une fois, moi, je veux pas être connu, donc j'avais mon masque de grenouille.
Oui, t'avais ton masque de grenouille.
Ce qui marche assez bien aussi, parce que la grenouille, c'est aussi un peu le symbole de la météo, tu sais, qui monte sur sa petite échelle, tout ça.
Non, c'était, donc, voilà, c'était sympa.
C'est les réseaux parisiens,
oui. Non, mais c'était très sympathique, quand même, de découvrir une émission avec Catherine Laborde, ouais, c'est vrai que lui faire dire ce genre de choses...
En plus, elle a bien aimé, puis elle s'est intéressée, elle faisait « Brécor, qu'est-ce que tu veux, Brécor ?»
Non, et puis, je sais pas, c'est peut-être comme ça transparaît dans sa météo à l'antenne, c'est sans doute quelqu'un de très sympathique et de très... très
adorable, doux. Ouais. Adorable, ouais, super. Voilà. Ouais.
C'est bien ce que...
Elle m'a reçu vraiment comme un roi.
Mais tu sais, après, tu regardes plus, du coup, parce que je regarde toujours un peu la télé, mais tu regardes plus Catherine Laborde de la même manière. Est-ce que tu dis, est-ce que la majorité des gens regardent de Catherine Laborde en disant « elle va encore nous annoncer de la pluie », toi, dans ta tête, tu te fais ton film. Tu dis, mais non, les amis, en fait, non, c'est pas de la flotte. Dans sa tête, je suis sûr qu'elle est en train de prévoir une averse de Brécor. Non, mais enfin voilà, faut juste imaginer ça. Et du coup, ça nourrit, ça m'a nourri une imagination. Et dès que c'était elle, enfin, je regardais la météo systématiquement. Dès que c'était les autres, je regardais même la météo de la une que pour elle, quoi. Donc, forcément,
comme Gaël.
Voilà, forcément.
Sauf que lui, il a fait le pas. Il lui a écrit, etc. Mais ça, tout petit, hein. Je te dis, je crois que c'est avec Catherine Laborde, c'est une histoire entre lui et elle qui date depuis qu'il est ado ou un truc comme ça.
Ouais.
Véridique, c'est un truc de fou. Donc t'imagines, tu vois, c'était ça, un de ses amis, tu vois, qui lui demandait si il pouvait participer à une émission de radio un peu bizarre, mais sympathique, voilà, quoi. Donc ça marchait bien, quoi.
Non, mais en tout cas, bon, joli petit coup.
Mais alors... en fait, j'aurais bien, du coup, ça avait tellement bien marché en fait avec Catherine Laborde, ne serait-ce qu'en termes de, entre guillemets, communication, tu vois, parce que d'un seul coup, tu peux mettre Catherine Laborde sur ton Facebook, tu vois, c'est
suite,
cool, quoi.
Oui, c'est clair.
Non, mais c'est rigolo, c'est décalé, ça marche bien. Et je m'étais dit, je ferais bien une série en fait avec des gens qui ont complètement improbables, quoi. À la fois connus, mais aussi inconnus. Par exemple, il y a un boucher dans le quartier qui est super cool. Tu pouvais faire une émission, tu vois, sur le Brécor et la noise tout en découvrant prendre la viande et tu vois, tu prends les bouts, alors là j'ai cartel, je machin, puis tu vois, t'en fais un truc génial, génial, quoi. Donc avec des guests, j'aurais bien fait ça. Mais d'ailleurs, dans Glitch, j'ai toujours plus ou moins inventé. Il y avait quelques personnages un peu récurrents, comme Papy Glitch, quoi.
Oui, Papy Glitch. Oui.
Qui avait des voix différentes et tout ça à chaque fois, parce que c'était même dans un même épisode, il avait plusieurs voix, parce que c'était voilà, mais on savait que c'était le vieux qui parlait, c'est Papy, quoi.
Les gens à Radio France s'intéressaient à ton émission ?
En fait, au début, tout le monde s'en fout. Chacun a sa propre émission.
Oui, voilà, c'est ça.
Il y avait les mecs. Moi, du coup, ça faisait quand même 10 ans que j'étais à la radio. Donc, de base, les gens se sont un petit peu intéressés. Je pense qu'ils ont... En tout cas, ils ont dit qu'ils écoutaient pour me faire plaisir ou pas, j'en sais rien. Mais voilà, il y avait en interne... C'était pas méconnu. Le prix, du coup, qui est arrivé assez vite, finalement, ça m'a fait connaître un peu plus largement. Parce que même, justement, Gaël, qui est attaché de presse, machin, bidule, il m'a dit que le président à l'époque, Jean-Luc Hesse, m'avait cité dans un de ses discours de comme quoi Radio France était génial parce que tu pouvais faire des passerelles entre être attaché de presse et devenir, voilà, la meilleure émission musicale sur une autre chaîne.
C'est vrai qu'il y a eu l'époque Jean-Luc Hesse, oui, j'avais oublié.
C'était l'époque que j'étais président, il a été nommé.
Oui, c'est ça.
Ouais.
J'avais complètement oublié cette époque-là. Ouais. Jean-Luc Hesse, donc, qui était président de Radio France.
Voilà, donc en fait, à partir du prix, ils ont eu ces petits trucs un peu en interne. Et puis après, dans les milieux surtout, quoi, c'est les petits labels tu vois, avec qui je parlais et tout ça. T'imagines même pas, quoi. C'était génial parce que pour eux, c'était une reconnaissance mais monstrueuse. J'ai eu pas mal de retours comme ça où c'était chouette, quoi, parce que ça leur permettait d'exister. Et mine de rien, au bout de 2 ans d'émission, de je sais pas combien d'heures, 100 et quelques heures de musique un peu barrée, indiffusable, etc., je pense que ça a créé un peu aussi. J'ai apporté ma petite pierre, voilà, quoi, et ça, c'était plutôt chouette. Et les labels, ils en parlaient aussi, du coup, un peu entre eux, et au fur et à mesure, tu vois, c'est comme ça, on se parle et tout ça. Mais c'est là où on peut reparler justement de Sociopass Recordings, quoi, parce que, je sais pas si tu veux qu'on parle de comment je découvrais tous mes artistes et tout ça.
Ben si, tout à fait, c'est bien, tu fais le conducteur de l'émission, tu fais l'émission.
Non, mais c'était la suite logique, en fait.
Tout à fait,
de l'explication.
Parce que pour introduire le propos par rapport aux auditeurs, là, je suis en train de laisser en fond sonore l'EP 78, hein, parce que c'était son nom, de Glitch sur le Move, donc avec Catherine Laborde. On avait quand même des morceaux des morceaux avec des noms improbables, des labels improbables dans des pays situés dans des pays totalement improbables, avec des genres en veux-tu en voilà à l'appel, qu'on ne savait même pas à quoi ça ressemblait exactement, le nom faisait peur dès le départ. Oui, comment tu faisais pour t'avais des contacts avec des DA, t'avais des t'étais en contact avec des patrons de labels ou on t'envoyait les morceaux
J'avais quand même un mini parcours là, comme ça faisait 10 ans que je bossais pour Trax et que je m'occupais du jeu. J'ai fait 2 trucs nuls pour Trax, on s'en fout.
On en reparlera à la quatrième partie.
J'avais déjà interviewé Igor, j'avais déjà fait une double page sur Ad Nauseam, une double page sur Piss Off, j'avais interviewé quand même pas mal d'artistes, j'avais parlé de la web radio Cannibal Caniche. Donc j'avais quand même une sorte de petit réseau déjà de base quand même quand je suis arrivé pour proposer une programmation musicale. Au-delà de ça, tu sais, le curseur, il était tellement loin de moi au Move que même passer un Aphex Twin, tu vois, c'était nouveau pour donc j'avais en plus de tous les petits labels dont moi je voulais parler et qui étaient vraiment pour moi l'idée, le principe même de l'émission, il y avait toute cette culture électronique c'est affligeant, tu sais. Moi il y a des stagiaires là à la com et tout ça qui ont 20 piges, je leur dis Aphex Twin, ils mouftent pas, ils captent pas, ils savent pas qui c'est, quoi. Tu leur dis Tech, ok, quoi, personne ne connaît, bien entendu, quoi, tu vois. Mais même à partir de là, Aphex Twin, quoi, je sais pas, c'est compliqué, quoi.
dis-leur Jean-Michel Jarre ou Daft Punk,
tu vois l'éventail, il était quand même assez ouvert, quoi. J'avais quand même une programmation assez complète et Ouais, j'avais des kilomètres et des kilomètres de, tu vois, de bandes devant moi, quoi. Mmh. Entre tout le catalogue Warp, ils avaient jamais rien passé. Plaid, Boards of Canada, tout ça. Pour moi, j'avais limite un peu honte, tu vois. C'était des morceaux de 98, quoi. Mais non, mais c'était il y a 20 ans.
Diffusé, oui,
et puis du coup, moi, ça m'a permis aussi, tu vois, de légitimer, ça légitimait aussi certaines musiques peut-être plus radicales, de plus petits labels et tout ça. Tu passais un Plaid et tout ça, c'était sympa. Les mecs, ils aiment bien. Ça fait un peu rêveur, un peu machin. Et après, tu pouvais les emmener dans un truc un peu moins rêveur, un peu plus expérimental. Ouais, mais si t'avais pas passé le Plaid avant. Ouais, voilà. De toute façon, l'idée, c'était quand même de. Quoi, on parle toujours de glitch, ah, c'était hardcore, machin. C'était hardcore, pas tant que ça. Non, non, mais pas tant que ça, en fait. Parce que déjà, dans une émission, il y avait effectivement toujours un morceau de breakcore, mais il était toujours quasiment exclusivement placé à la fin, ou à de rares exceptions près. Il y avait quand même une sorte de montée où on commençait par des morceaux soit un peu rigolos, soit un peu ambiants, tu vois. Il y avait une progression, toujours. Il y a toujours eu cette idée de progression. Sinon, ça sert à rien, tu fais pas de programmation, quoi.
Non, c'est sûr. Mais c'est ça qui est assez étonnant, c'est que dans tes paroles, ça transparaît. T'as eu comme un cercle, une sorte de gens fidèles qui écoutaient, je suppose, religieusement l'émission. Et
ouais,
t'as eu des retours par rapport à ça, par rapport à ce public-là. Bon, mis à part moi, bien entendu, parce que c'est une émission, mais.
Les entre guillemets professionnels, hein, parce que c'est quand même toute une. Quoi, ce qu'il faut voir aussi, ce qui était génial pour tous les. Là, je parle en l'occurrence des net labels et des petites structures, quoi. Ad Nauseam, c'est une personne, tu vois, et Ad Nauseam, oui, c'est quand même un pan monstrueux. Ouais, voilà, c'est un pan monstrueux de la culture électronique, quoi.
Oui.
Et mais Piss Off, c'est pareil, tu vois. Sociopass Recording, c'est pareil. Le mec, il est tout seul à Taïwan, quoi. C'est hallucinant, quoi. Et n'importe quel artiste electronica, extrême glitch, un peu bizarre, hardcore bizarre, il a sorti son truc sur Sociopass Recordings, Taïwan. Ouais. Taïwan, putain. Ironska Chang. Ouais, ouais. Ce mec est un génie, quoi. Donc voilà, l'idée, il y avait quand même une sacrée reconnaissance. Donc, ouais, le bouche à oreille aussi, ça a pas mal fonctionné, en fait, quoi. Parce que, il y avait quelqu'un qui. Il y avait un créneau musical pour diffuser ses musiques. Et c'était chouette, quoi. Ouais, donc j'ai eu quand même que des retours extrêmement positifs. Et puis après, je sais pas, il y a toujours. Il y a des gens, de toute façon, quoi. Après. Je sais pas, Nico Pratt et tout ça, je pense que ça leur dit rien, mais c'est pas très grave, c'est pas forcément, c'est bien que ça existe, quoi, c'est bien qu'ils fassent leurs émissions, que ça existe, leur culture, mais moi, quand même, toute cette culture, c'est un peu mon, voilà, je suis très content, en tout cas, d'avoir pu proposer une alternative à la culture un peu, entre guillemets, officielle, un rock, tu vois, machin, un peu hype, un peu bizarre.
Ouais, mais justement, peu... ouais, le move, c'était ça, c'était, tu citais Nico Pratt à l'instant, là, qui était dans une émission...
Laura Leishman, c'est pareil.
Laura Leishman, c'était saoulant. On va dire les choses comme elles sont. C'était saoulant. Moi, je réagis en tant qu'auditeur parce que je ne suis
ça
pas.
Avait, voilà. Tu sais, Laura Leishman, moi, j'étais, je sais pas, à mon avis, au maximum, j'ai dû atteindre, je sais pas, les 5000 podcasts ou un truc comme ça. Mais en même temps, tu vois, personne faisait ma pub. Le Move, ça avait une sale image. J'étais le vendredi à minuit. Bon, bref.
Oui.
Voilà, mais en tout cas, Laura Leishman, elle était à 80 000 ou, tu vois, podcasts, je sais pas, un truc comme ça.
C'est un peu elle qui traînait la grille, ouais.
Oui, oui. Mmh. Donc, tu vois, on peut dire qu'on n'aime pas, mais en tout cas, ça existait. Et puis bon, c'était pas, c'est quoi.
Non,
moi,
c'est
pas
ça.
Les musiques qu'elle diffuse, ça m'intéresse pas, mais c'était bien.
C'est ce comment dire, ce fossé, cette différence qu'on pouvait avoir entre des choses plus spécialisées et une Laura Leishman, ou un Nico Pratt ou n'importe qui d'autre au final dans la grille du Move qui faisait une émission musicale. Moi, je parlais en introduction d'OVNI improbable dans le PAF, mais j'aurais pu aussi très bien dire OVNI tout court à Radio France. Et encore plus dans le Move, parce que pour moi ça n'avait même pas ça tranchait radicalement avec ce qu'on pouvait entendre à l'antenne. Tu vois, on entendait t'étais dans la même époque que par exemple la Morinade qui était diffusée en soirée ou je pense à bien entendu à d'autres émissions. Voilà, le vendredi soir t'arrives, boum, tu tombes sur un programme totalement improbable, on t'annonce un truc sur l'ordre et puis t'as une émission avec des musiques, dis donc.
C'est le désordre.
Donc tu vois, tout ça pour dire que je pense que ça t'a jamais déstabilisé toi dans ta tête, ça t'a jamais
non, et je te dis, moi je vraiment encore une fois, moi j'étais à fond dans ces musiques. On t'a dit qu'on en parlera plus tard de Lars, mais c'est pareil, j'en fais de la musique et je pense aussi que ça c'est très important. J'étais finalement, moi j'ai plus une casquette de musicien entre guillemets plutôt que de journaliste quoi, et pour une émission musicale c'est pas si mal, surtout quand t'as une culture de journaliste à côté. J'ai fait une école de journalisme, j'ai fait des articles et tout ça et tout ça, mais quand même j'avais une approche sonore pour la radio, donc ça, moi j'ai toujours été à côté, j'ai jamais été, du coup je me suis jamais mis en concurrence avec d'autres trucs, je me suis jamais posé la question.
Autant je doute
de ma voix, de mes trucs, etc. Autant je doute pas de ces cultures et de ces musiques-là et de ce qu'elles ont à apporter aux gens. Et du fait surtout qu'elles sont inaccessibles en fait si tu les programmes pas. Tu vois, il y a plein de, tu vois, les abyssales. Il y a des web radios qui diffusaient tout ça, mais comme tu le dis, il y a pas beaucoup d'auditeurs. C'est dur d'exister, comme au machin. Là, ce qui était génial, c'est qu'on était sur un service national, que c'était en plus le service public, quoi. Oui. Donc, ça avait une vraie, pour moi, ça avait une vraie cohérence. Et quand je faisais Glitch, j'avais vraiment l'impression d'apporter la même petite pierre que quand je faisais un reportage super engagé, où là, pour le coup, t'es en prise avec le réel. Donc, t'as une vraie, là, tu sais que t'apportes ta pierre à la société, quoi. T'as fait entendre des voix qu'on n'entend nulle part, quoi. Et ben là, tu fais entendre des musiques que t'entends nulle part, quoi. Et ça, c'était génial, quoi. Et non, je me suis jamais dit, ça a rien à foutre là. Je savais que ça avait rien à foutre là, de toute façon, quoi. Mais dans la mesure où, en plus, à New York, on m'avait dit c'est bien, que j'avais des bons retours, que effectivement personne ne diffusait ces musiques, et depuis que Glitch a disparu, bah, personne ne les diffuse non plus. Je suis très fier de ça, quoi. Et je me suis jamais posé la question de sa validité ou pas. Je savais que c'était bon, quoi. Voilà.
Donc effectivement, comme je l'ai dit en introduction, hein, j'ai résumé brièvement aussi une centaine d'heures de programme, puisque bon, j'ai compté, il y a eu 101 émissions, il me semble. Alors je sais pas si ça compte les émissions d'été ou pas.
Ça compte, bien sûr, ça compte.
Oui, bon, donc c'est bien 101 émissions, d'accord. Donc,
Surtout qu'en fait la dernière, elle a pas été diffusée. Quoi. Et ça, c'est un peu le petit regret, mais bon, c'est pas grave.
La 101e, elle a pas été diffusée.
La dernière, du coup, la 102e, en fait, 102e. Ils ont. Ouais, apparemment, il y a eu un problème technique.
D'accord. On parlera après de ce qui est devenu, ce qui est devenu la chaîne. Mais t'as pas eu une sorte de lassitude, parce que sans émission, c'était toutes les semaines. Qu'au bout d'un moment, il n'y a pas eu une raréfaction du catalogue, il y avait plus de lassitude, de la routine, ce genre de choses là
Ah non, pas du tout. C'était plus, tu sais, en plus, plus tu te plonges dedans, plus tu découvres des trucs. Je sais pas, même par exemple la belle Merck qui est mort je sais plus quand, tu vois, c'était pas d'actualité, mais je l'ai découvert par truchement, quoi. Donc non, c'est, et puis tu sais, c'est tous les jours il y a des choses hallucinantes qui émergent, quoi. Il suffit d'être plongé dedans. Après c'est plus la lassitude, non. Donc si on m'avait permis de continuer, je pense que jamais j'aurais été lassé de faire ça, c'est évident, parce que ça rejoignait aussi un travail de création. C'était pas simplement de la programmation, c'est pas un simple travail de journaliste,
oui,
c'était
fait,
aussi,
ouais.
J'avais l'impression de créer une œuvre en fait, et c'est ça qui est une œuvre, oui, comme quand je compose un morceau en fait, quoi, une œuvre dans le sens morceau, quoi. Et ça c'était génial, parce que je fais de la musique depuis très très longtemps, quoi, j'en compose depuis les années 2000 et tout ça, et en fait quand je me suis mis à faire Glitch, l'art en fait ça a commencé à pas mal marcher, quoi, par rapport à Exister Zéro, tu vois. J'avais fait quelques concerts, j'avais sorti 2-3 trucs, j'avais sorti un truc sur Sociopath Recordings, sur des net labels français,
ouais,
et tout
dance.
Ça
ouais,
c'est ça, ouais. Sur leur compilation, en 2 volumes.
Breakdown.
Et ouais, et du coup je faisais pas mal de musique, quoi. Ça nourrit mes nuits, hein, la musique, quoi, la compo et tout ça. Et quand j'ai fait Glitch, j'ai complètement abandonné la compo, parce que j'arrivais pas à créer autre chose, quoi. J'avais pas de temps de cerveau disponible, comme on dirait à TF1, pour créer autre chose, quoi. Et le truc qui est étrange, c'est que depuis que j'ai arrêté Glitch, je me suis remis à fond dans la musique. Quoi. Ouais. Bah ouais, donc quelque part, le manque, Ouais, moi ça me désole surtout que quelque part personne ait repris le flambeau sur la FM dans un sens, quoi, que ces musiques là elles existent ben toujours encore une fois nulle part. Ça me fait chier. Après, à titre personnel, ben je me suis replongé dans mes propres compos, donc je me compense de ça, mais ma vie de producteur de pendant 2 ans, c'était quand même je pense que ça restera la parenthèse enchantée, mais j'aimerais bien que ça le redevienne, mais et que ça ne soit pas qu'une parenthèse. Mais ouais, non, mais c'est vrai.
Bah, c'est pas sur le move d'aujourd'hui que tu vas faire grand chose, hein.
Non, et c'est pas Radio France non
c'est
plus
pas
a priori,
Radio France
quoi.
Non plus, ouais, a priori. Parce que effectivement, comme je l'ai dit et comme tu l'as maintes et maintes fois répété, l'émission a duré 2 ans, hein, de 2012 à 2014. Alors programmé en plus à des horaires parfois différents, pas forcément tout le temps à minuit, hein. Je crois qu'il y a eu 22h, si. Non, il n'y a pas eu du 22h.
Ah,
non, c'était
si,
l'été.
Mais ça, c'était l'été, ouais. C'était... Et ça, c'était cool, du coup.
Ouais.
Parce que l'été, en même temps, du coup, je savais que j'étais programmé un peu plus tôt. Du coup, c'était des émissions souvent un peu plus légères, quand même. Quoi,
et t'étais présent au MOOF quand l'émission était diffusée? Comment ça se passe exactement?
Non, en fait, je bossais que depuis chez moi.
Oui, depuis chez toi.
Je faisais tout le montage, tout le truc, etc. Le choix des musiques, de toute façon, c'était... Quoi, l'importance aussi, on va le dire rapidos quand même, mais c'est le truc quand même le plus important, les amis, foutez-vous sur Soulseek, parce que c'est quand même, moi toute ma culture musicale elle vient de là, hein, donc c'est... Enfin, moi, en tout cas, sur Soulseek, c'est là où j'ai c'est un truc, en fait, un logiciel de peer-to-peer où, en fait, tu trouves toutes les musiques complètement les plus barrées, quoi, tout mon catalogue.
Les plus barrées, oui.
Moi, de toute façon, c'est simple, il vient de Soulseek et après, du coup, sur Soulseek, bah, les net labels et les petits labels, bien entendu, ils foutent leur production en téléchargement libre et donc, bien entendu, après, tu les retrouves sur leur site et après, il y a des choses qui sont payantes, il y a des trucs.
Ouais, parce que, par exemple, Sociopass Recordings, c'est l'intégralité de leur catalogue et.
En téléchargement libre.
En téléchargement libre, en téléchargement
absolument.
Libre, où vous pouvez avoir l'intégralité du catalogue.
Mais comme plein d'excellents net labels, je pense à Die Hard It Records à Paris, Darling Dada, quoi, Bedroom Research, quoi, c'est
exact.
Voilà, il y a 3 milliards de trucs. Faut juste s'y plonger, quoi.
Faut s'y plonger, ouais. C'est vrai que c'était. Moi, je sais qu'il y a eu, il y a eu toi, donc via Glitch sur le Move, et puis il y a eu ce webzine dont un des qui a décédé d'ailleurs, il y a pas si longtemps que ça, qui s'appelait autrefois Chronique Électronique.
SWQW.
Qui est devenu le méchant SWQW et qui a
Ils ont toujours été méchants.
Ouais. Mais d'ailleurs, l'un des fondateurs est patron de label. C'est le cofondateur de Voxov Records.
Excellent label, webzine.
Ouais, qu'on a diffusé dans les abyssales. SWQW, c'était bien. Par contre, c'est sûr qu'il fallait s'accrocher pour. Parce que
c'était très ardu aussi. Ah, oui, c'était SWQW, c'est leur. C'est quand Chronique Électronique. Enfin, tu leur. D'ailleurs, tu devrais faire une émission avec. Avec les deux gars de Voxov et de.
L'Exocet.
Et de SW. Ah ouais. Chopley fait une émission avec eux.
Bah,
extrêmement intéressant ce qu'ils ont à dire.
J'y ai pensé pour l'Exocet, mais j'ai un peu peur qu'ils nous considèrent comme la soupe populaire,
non,
donc je sais pas.
Je leur parlerai de toi.
Ah, tu les connais?
Ouais. Bah, du coup, forcément, tu sais, c'est des petits milieux, et puis, s'est rencontrés sur des festivals, quoi. On s'est rencontrés par Glitch, hein. Moi, je les connaissais pas avant, pour le coup, quoi.
D'accord.
Je lisais Chronique Électronique.
Carrément, parce que moi, je voulais parce que je sais qu'ils faisaient une émission sur une station de radio.
Je
crois que c'est à Toulouse, ou une connerie comme ça.
Radio Campus Toulouse.
Voilà, c'est ça. Et du coup, je me suis dit à l'époque, tiens, je ferais bien. Et puis, j'ai déjà passé en plus du Vox of Records.
Ils ont des discours qu'il faut faire entendre, quoi. Voilà.
Sûr. Hein. Moi, j'étais un lecteur assidu du site. Par contre, c'est vrai qu'il y a certaines choses où, bon, il y allait pas avec le dos.
On n'est pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec lui, ou je suis même pas forcément d'accord aussi.
Ouais, c'est ça.
Par exemple, même, tu vois, pas forcément pas d'accord, mais en tout cas, on n'a pas du tout la même approche. Par exemple, lui, dans son quand tu lis un article signé l'Exocet, parfois, t'as l'impression de te faire engueuler.
C'est ça, ouais. T'écoutais les mauvais les choses et maintenant t'écoutes ça et puis c'est tout.
Et encore au-delà du fait d'être un peu entre guillemets quoi, de ressentir un peu de mépris parce que putain tu vas être en culture et tout ça,
c'est ça.
Tu te fais en plus au-delà de ça tu te fais engueuler.
Ouais c'est ça. Non mais j'ai exactement le même sentiment.
Et c'est l'opposé total quelque part de.
Ah oui d'accord.
Où tu vois moi je quelque part je faisais en sorte que les gens se sentent bien ou se sentent dans une ambiance un peu tu vois chelou un peu.
Moi je me souviens surtout de leurs articles à mourir de rire sur Kavinsky ou sur Daft Punk où il est surtout Kavinsky où il l'a mais je crois que j'ai jamais lu un article aussi hilarant mais qui confirmait en fait ce que je pensais intérieurement du mec et puis de sa musique où je me suis dit putain le mec allait et puis ça a dû faire du clic à mort et le mec voilà il en balance mais c'est dommage parce que ça a dû rester dans notre sphère, ça a dû rester dans nos trucs à nous. C'est dommage parce que c'était tellement drôle. Le site est hors ligne, mais je suppose qu'on a la possibilité encore de retrouver ça dans Internet Archive ou une connerie comme ça. Et c'était, enfin, j'essaierai de rechercher le truc pour mettre le lien aux auditeurs. Là,
mais invitez-le surtout, faites une émission.
J'y pensais, puis vu qu'il est aussi du coup cofondateur de Voxov et qu'on en a déjà diffusé en plus dans les habitants.
C'est vrai.
Bah
c'est
oui,
bien ça.
Deux ou trois fois même. C'est vraiment un label qu'on aime beaucoup dans les abyssales. On avait diffusé comment il s'appelle un disque assez récent, Damien
Valas,
ouais c'est ça, ouais. Et on avait diffusé deux morceaux
Baskin.
De leur non pas lui par contre
pas Paskin.
Non pas Paskin mais on avait diffusé Paskin l'émission qu'on avait faite spéciale sur le Transient Festival c'était il y a deux ans
excellent festival
on avait fait un petit focus dessus et puis du
c'était
coup,
ma première ça d'ailleurs
oui c'était ta première Jay oui
parce que ma première émission dans les abyssales
beau baptême
ouais je trouve aussi ouais.
Ah ben j'ai annoncé la couleur direct j'ai lui dit quand il est arrivé parce qu'on avait j'ai créé l'émission avec un ami à moi juste avant et donc cet ami là est parti pour des raisons personnelles et du coup donc j'ai voulu retrouver quelqu'un donc j'ai trouvé Jay par le truchement de je ne sais pas quoi on se connaissait pas forcément d'ailleurs à l'époque et justement je lui ai proposé le programme de Transient Festival on prend les artistes et puis on prend quelques morceaux et puis on voit ce que ça donne quoi et ça a super bien super l'émission a déjà très bien marché effectivement et puis en plus de ça on a pris du plaisir à diffuser des morceaux parce que c'était des choses plutôt calmes, plutôt tranquilles, mais quand même, hein, c'était quand même une émission sur quelque chose de très spécialisé là pour le coup, le Transient Festival. Ouais. Et,
ils ont une programmation qui est vraiment très glitch. Quoi. Ça aurait vraiment bien marché. Moi, j'aurais rêvé du coup de faire des émissions en direct de leur festival, des trucs comme ça. Ça aurait été super chouette, tu vois. Ouais. Une nuit sur le Move et tout ça. Là. J'étais à leur dernière édition.
Oui.
C'était
bien.
Quoi.
Ouais.
Excellent.
Ouais. Non, mais ça fait trois ans qu'ils font ça. Et c'est vrai qu'il y a un line-up assez hallucinant. Et je sais plus, je crois que c'est sur Artzine que j'ai dû lire un petit résumé. Non, c'est vrai qu'il faut quand même souligner la qualité de ce festival qui grandit de plus en plus et qui est d'ailleurs pas consacré tout le temps à la musique. Hein. C'est tout l'art numérique, le nouvel
Absolument,
art numérique
c'est ça qui est génial.
Qui est représenté. Hein. Je sais pas si Jet, tu t'en rappelles, mais on avait parlé des vidéos, des prestations scéniques des artistes. Et du coup, moi je pensais particulièrement à Hawker, puisque c'est quelqu'un qui me parle forcément un peu plus que d'autres, puisqu'il est présent dans le cœur même du podcast. Vu que je lui pompe allègrement la moitié de ses morceaux pour faire l'habillage. Mais il est au courant, évidemment.
Il est au courant, tu l'as dit.
Oui.
C'est important, hein, parce que en général, tu vois, il y a quand même cette notion aussi. Il faut les valoriser.
Je pense que tout le monde sait que les Hawker, donc c'était la première saison, donc je lui avais demandé si je pouvais utiliser ses morceaux. Ouais. La seconde saison, j'étais tombé sur un album d'un artiste d'Ultima et Records à Lyon, donc label d'ambiance. Je sais pas si je pense que tu dois connaître.
Absolument.
Et donc j'avais été au débeauté, hein, j'avais contacté Mayan, hein, qui est la co co-directrice avec AES Dana. Et du coup, je lui avais demandé, est-ce que je peux utiliser le morceau, éventuellement faire un remix pour faire mon petit générique, faire mes tapis sonores et patati patata. Et puis, bah, la personne m'a dit, il n'y a pas de problème, tu utilises, si tu as le moindre truc, tu as besoin d'un truc. Voilà, bah, c'est super chouette. Et du coup, bah, tu as envie de dire, bah, voilà, ça c'est Azura, bah, ça nous sert de générique. Et puis, bah, là, c'est retour à Hawker depuis la troisième saison et celle-ci, la quatrième des Abyssales. Et bon, bah voilà, c'est toujours le même travail. Et on essaye toujours de dire, bon, bah voilà, c'est au cœur, c'est important quand même de dire ces choses-là. Donc, on en était à Voxoff Records, donc à l'Exocet qu'on invitera du coup. Hein,
si
ça l'intéresse, il n'y a pas de souci, on l'invitera avec grand plaisir. Je lui demanderai, mais pourquoi
t'es méchant ?
Pourquoi t'es méchant ? Parce qu'en plus, je l'ai écouté au micro, il a l'air plutôt sympathique, pas plus
méchant. Oui, mais c'est adorable.
C'est des personnages. Oui,
c'est des vrais personnages.
Il y a l'Exocet et l'autre, je ne me rappelle plus de comment il s'appelle.
C'est Winnie l'Exocet et Mourad.
Oui, c'est ça, Mourad.
Voilà. Qui vient à Marseille.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, voilà. À l'occasion, donc voilà. Ce qui nous amène du coup à terminer sur cette partie de Glitch sur le Move, qui était donc une partie de ce que tu as fait, donc 2 ans, hein, tout de même, où tu restais sur une antenne nationale à 21 fréquences, je le précise, hein, c'est pas non plus la grosse antenne de la ouf de la mortitude, ça c'est pour...
Non, mais il y avait le web.
Oui, il y avait le web, c'est ça.
Et ça c'était bien aussi parce que du coup j'étais écouté à l'international aussi.
Bah oui, du
ça,
coup.
Je le savais. Et ça c'était chouette.
Oui, bah voilà, oui. Et puis je pense que les musiques, bon, quand tu commences à parler d'un label ukrainien, enfin, je sais pas pourquoi, mais l'ukrainien ça m'a marqué. Je sais pas pourquoi, mais.
Il y a plus marquant, il y a le label, ça faut le citer, et vraiment j'incite tous les auditeurs à y aller, hein, quand même, c'est un net label, mais la plupart des choses sont payantes, mais franchement ça vaut le coup, c'est Mozik.
Oui, Mozik, c'est
le nouveau Warp, quoi, mais tout le monde s'en branle, mais c'est le nouveau Warp. Quoi.
Je suis d'accord avec toi, ouais, mais je pense qu'il y a encore toute une partie qui est encore bloquée sur des Novali. J'ai toujours entendu une espèce de hype autour de ce label-là, je n'ai jamais accroché moi personnellement à des Novali.
Ah oui ?
Ouais, je sais pas. Il y a très peu de choses qui me... Le seul truc, moi, où je sais que j'avais pas mal accroché, parce que j'avais fait une chronique à l'époque, c'était un projet sur la petite fille aux allumettes qu'on avait diffusé dans les Abyssales. C'était le seul morceau de des Novali qu'on avait passé. Personnellement, je sais pas. Faudrait que je me replonge, je sais pas.
C'est pareil aussi, hein, c'est une toute petite structure, ils sont que deux.
Bon bah voilà, il faudrait que je m'y replonge tout simplement.
Ouais.
Et donc pour terminer cette partie, eh ben on va écouter quelque chose d'aussi barré que qu'était Glitch sur le Move, puisque ça s'appelle donc l'artiste c'est Fat Frumos et le morceau c'est Birthday Birds Hungry Party. Vous allez comprendre.
Et attention. Accrochez-vous parce que.
Je crois même Jay que je vais me faire plaisir. Je vais passer le petit jingle qui va bien. Qui annonce la couleur, ouais,
le fameux jingle que j'aime beaucoup.
Voilà, ouais, le jingle qui m'est venu un jour d'aspiration où je devais être particulièrement inspiré, puisque c'est un Igor que j'ai fait. Alors attends, et si j'arrive à retrouver le petit jingle qui va bien, je l'ai trouvé. On va pouvoir se le caler et on va s'écouter juste après Fat Frumos Birthday Birds Hungry Party dans l'invité des Abyssales, toujours avec Adrien Landivier. À tout de suite.
Les Abyssales.
La 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 la. Ой, ці блядки, как прикольно.
Уж ты, а это что такое? Баря, все, баря.
Опа, Gangnam Style!
С днем рождения!
С днем рождения, Саня!
Опа, Gangnam Style!
Счастья, здоровья!
지금 рождения.
Успехов и счастья. Выключай.
Дорогие друзья, у вас в руках уникальное лечебно-методическое пособие, бичующее язвы современного человека. Использовать это пособие можно как в клинических условиях, так и в быту, в том числе без ведома больного. Желаем вам удачи и здоровья. Итак, мы начинаем.
Я люблю дуть плюхи.
Profondeur sous-marine, l'invité des abyssales.